Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure.
Chers amis auditeurs du domaine des possibles, bonjour. Dans un contexte toujours plus rempli d'incompréhension sur l'avenir que l'on nous construit, et dans lequel il semble que sans réactivité, sans prise de conscience, sans réveil citoyen, rien ne se passera de bon pour cette société dans le domaine de l'égalité et de la fraternité. Le domaine des possibles vous propose donc, ou a choisi d'inviter plutôt, non pas un homme cette fois-ci ou une femme, mais une idée géniale, nécessaire et salutaire pour la ville de Montpellier. Une idée collaborative, alternative bien sûr, puisque le propre de notre émission est de vous parler d'alternatives. C'est une idée lieu, une idée quartier, une idée ensemble, une idée groupe, une idée ressource, une idée résistance. Cette idée, c'est la Carmagnole. Elle est née dans le quartier de Figuerolles à Montpellier. Pour nous en parler, je reçois un homme au parcours éclectique, pour qui la vie professionnelle, personnelle et militante ont été et sont toujours, je crois, intimement liées. Un homme qui en représente plusieurs autres et qui, à eux tous, sont à l'origine de cette idée. Bonjour Henri Ménadier.
Bonjour.
Henri Ménadier, j'aimerais vous poser une première question. C'est d'où vous est venu ce nom de la Carmagnole? Pourquoi l'avoir choisi?
Vous avez fait une très belle intro.
Merci. C'est gentil.
Il faut que je sois à la hauteur de l'intro maintenant.
J'en doute pas.
Alors, pourquoi ce nom et d'où vient-il? C'est toujours une affaire délicate de trouver un nom. Il faut que le nom choisi, il faut qu'il soit court.
Ouais.
Il faut qu'il sonne. Il faut qu'il imprime, comme on dit aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, il faut qu'on puisse le mémoriser. Et puis surtout, et en tous les cas pour nous, il fallait qu'il ait du sens.
Il fallait qu'il parle, oui.
Mm-hmm. Il fallait qu'il parle. Voilà.
Mm-hmm.
Alors, il se passe ce qui se passe habituellement quand on cherche un nom. On est autour d'une table, on se retrouve avec 10 ou 12 propositions. Et celle qui est sortie, c'est la Carmagnole. Pourquoi la Carmagnole? Alors, la Carmagnole, parce que c'est un chant révolutionnaire et républicain qui marque la chute de la monarchie, autant que je me souviens, en 1792. C'est un chant qui est né dans le Piémont, qui est passé par Marseille.
Mmh.
Tiens, passé par Marseille, ouais. Avant de monter à Paris. Et il devient là, en 92, dans l'hymne des sans-culottes. Il y a plein d'histoires autour de cette Carmagnole. C'est un chant qui reste vivant tout au cours du 19e siècle. Il n'est pas seulement lié à cette ouais. période révolutionnaire.
Mm-hmm.
On garde la mélodie et on change les paroles.
Ouais.
Je dis, il y a plein d'histoires. Par exemple, j'ai découvert comme ça dans un texte qu'en 1907, quand se produit à Montpellier, se déroule cette immense manifestation.
Ouais.
C'est l'histoire de la révolte des Gueux, Marcelin, Albert, etc.
Ouais.
C'est probablement la plus grande manifestation que j'ai jamais connue à Montpellier, où tout le midi viticole est là. La fin de la manifestation est marquée par des incidents, parce que des jeunes languedociens s'en prennent au monument un peu institutionnel de la ville, et en chantant, quoi, la Carmagnole. C'était comme quoi, pour souligner que c'est...
Oui, Montpellier était marqué par la Carmagnole, déjà.
Un peu, voilà, on peut faire ce type de lien, c'est plutôt sympa.
D'accord, ok.
Et puis, j'ai découvert comme ça dans une version, parce que ça... La Carmagnole accompagne donc, je parle 1907, mais elle accompagne avant la 1948, puis la Commune. Donc, et dans une version qui précède un peu la période de la Commune, j'ai trouvé ce couplet que je vous lis, que j'aime bien. Oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes et des faubourgs. À leur santé, buvons. Vive ces francs lurons.
Alors, je trouve que c'est tout à fait adapté au lieu tel qu'on le connaît aujourd'hui.
C'est c'est une belle référence, exactement. Donc, nos locaux étaient occupés par une école de danse.
Oui.
Il y a encore il y a peu la l'enseigne danse.
Oui.
Et finalement, la bande de Guéluron, la bande de Lascar et de Lascarde qui porte la Carmagnole.
Oui.
Et s'il y a cette référence à la danse, c'est parce qu'on est bien, ils sont bien décidés, on est bien décidés à mener le bal à Montpellier d'une certaine manière. Donc il y a après, une fois qu'on trouve un nom, on fait ces rapprochements, quoi. C'est-à-dire à secouer la ville et toutes ses institutions. finir aussi avec les vieilles pratiques politiciennes. Moi, j'aime bien, j'ai écouté l'autre jour une émission et j'ai entendu cette phrase de Pina Bausch, « Danser, danser, où nous sommes perdus ». Voilà, un peu le mot camagnole, ce serait bien s'y porter tout ça.
Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc, le nom, une fois le nom choisi, ou peut-être en amont du choix de ce nom, il y a une histoire de la naissance de ce projet, je dirais. Alors, comment vous est venue l'idée d'abord de créer un lieu comme ça? Et voilà, d'où sortent les gens avec qui vous avez créé ça? Un petit peu, quelle est un peu la genèse donc, de ce projet?
Alors, c'est toujours difficile de reconstituer...
En pas trop longtemps.
Ouais. Je regarde là. C'est toujours difficile de reconstituer, après coup, le fil d'une histoire.
Bien sûr,
quand
ouais.
Elle débute comme ça. Alors, vous posez la question de savoir quels sont les hommes qui ont...
Oui, voilà, oui. Mmh.
En réalité, c'est un petit groupe qui... Comment expliquer ça? Je veux dire, les tout premiers pas, on est une bande de copains comme ça, on se voit, on discute, politique, culture, tout... Et on est stupéfait par les résultats du premier tour des élections présidentielles.
Ouais.
Dans cette ville-là, Montpellier, mm-hmm. un électeur sur trois a voté pour un candidat qui incarne la gauche de la gauche, en tous les cas qui se présente aux électeurs avec un programme de transformation sociale. Et Montpellier, la ville de Montpellier, lui accorde plus du tiers des voix. C'est-à-dire qu'un Montpellier, un sur trois, a voté pour un programme de transformation sociale.
Mm-hmm.
Et ça se prolonge puisque la ville élit un député de cette sensibilité à l'Assemblée nationale.
Mm-hmm.
Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ville a profondément changé. C'est un formidable révélateur. C'est-à-dire que ce n'est plus la ville qu'on a connue des années 70, celle de la bourgeoisie montpelliéraine un peu compassée, celle d'Elmas, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période.
Tout à fait. Mm-hmm.
Celle des, qui est issue des facultés de droit, du prétoire, etc. Mm-hmm. L'omnipotence... souligner d'un trait rouge le mot, je le ferai, de Georges Frêche est un souvenir, est derrière nous, et Montpellier, donc, se révèle être une ville beaucoup plus ouverte et beaucoup plus... Voilà, il ne correspond pas à l'image qu'on en avait jusqu'ici.
Ouais. Mmh.
Et cette révélation, nous... des changements profonds de la ville, nous amène à penser, comme ça, en discutant, que qu'une ouverture est possible pour développer, finalement, je vais retomber sur mes pieds avec votre émission, pour élargir le champ du domaine des possibles.
D'accord.
Pour reprendre le thème de votre émission.
Voilà. C'est gentil.
C'est-à-dire, en gros, si je le dis avec mes mots, moi, c'est ajouter dans notre esprit, l'idée, c'est de trouver le moyen d'ajouter une déflagration, faire en sorte que cette déflagration, on appelle d'autres. Voilà.
D'accord.
Donc voilà.
Je comprends.
À partir de là, ce petit groupe qui réfléchit, qui dit, la ville, elle a changé, elle n'est plus la même et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier le mouvement? C'est un peu ça l'idée. Quoi. Et c'était à ce moment-là que l'un d'entre nous dégote 300 mètres carrés de libre, qu'on évoquait à l'instant, que vous évoquiez dans votre introduction, cette 300 mètres carrés de locaux, une ancienne école de danse, donc à Figuerolles. Figuerolles, en plus, c'est sûrement le quartier, enfin pour moi en tous les cas, et pour nous, c'est sûrement le quartier... Oui, je vais dire, allez, je dis le, pas un des plus. Je pense que c'est le quartier le plus attachant de Montpellier.
Ouais.
Il y a une partie de l'histoire de la ville qui est là. Il y a une,
oui, on est encore dans la vieille ville de Montpellier.
On est encore dans la vieille ville, et puis on est dans une vieille ville métissée aussi, avec ses populations de maghrébins, de gitans, d'artistes, de nouveaux arrivants, de vieilles familles et tout ça. C'est une espèce de mélange comme ça. Et dans ces quartiers, les candidatures du changement ont fait 45% des voix. Quoi. Donc, bref, ce quartier qui s'est doté, il y a toute une histoire, on ne va pas parler de ça, ça nous prendrait de temps, mais toute l'histoire du quartier, sa commune libre, enfin, toute l'histoire du quartier racontée par un type, un journaliste, un sociologue qui a fait un travail considérable, qui s'appelle Thierry Arquet, donc je ne saurais trop recommander à nos auditeurs de chercher et de se procurer ces bouquins et de les lire, parce que c'est le creuset d'où la ville nouvelle peut, à partir de laquelle la ville, cette forme nouvelle de vie que pour Montpellier peut s'exprimer totalement. Alors, il y a une chose qui est claire, je vais être clair tout de suite, c'est que ce petit groupe-là, 10-15 personnes, ce sur quoi ils s'entendent tout de suite, c'est sur la volonté d'être en rupture totale avec la vieille conception des sièges de parti. Voilà.
D'accord.
Là, il y a un siège, Il y a des gens qui ont une sensibilité, d'ailleurs, plurielle. Hein, y a
ouais.
pas, Et on ne va pas reproduire ça du tout.
Donc, parce que votre souci, à l'origine, c'était quand même de créer un siège de parti.
Pas du tout.
Vous y avez pensé?
Pas du tout.
Non, pas
non,
du tout.
Non, on n'y a pas du tout pensé.
Je dirais
ça, c'était tellement clair qu'on
n'a
pas
voulu...
pensé.
Oui.
Ça, alors, l'écarter
tout de suite.
Voilà.
Ça,
donc,
ça.
L'idée, c'est vraiment de dire, si on crée un lieu, il peut être quoi? Il peut ressembler à quoi? Alors, on se dit, c'est un lieu libre et ouvert. C'est des termes forts. Hein. On se dit, c'est un lieu de rencontre, de confrontation.
Ouais.
Ça doit être un lieu d'échange permanent, de débat permanent. Un lieu aussi de démocratie exemplaire dans son fonctionnement. Donc, un lieu aussi de... On cherche des mots, on trouve d'incandescence culturelle.
Ouais,
parce que on dit, c'est un lieu qui doit être un lieu de créativité dans tous les domaines. La musique, le théâtre, la danse, on termine de parler, la poésie, le cinéma, etc. Et puis, enfin, il y a aussi le choc. La première phrase du texte fondateur dit « La Camagnole est un lieu revendiqué de combat politique et de solidarité. Sa vocation est d'être un point d'appui pour toutes les luttes sociales, écologistes et démocratiques.
Voilà. » D'accord.
Donc, ça affirme aussi une volonté qui est celle de,
qui est celle de rassembler.
De rassembler et d'une forme d'engagement.
Tout à fait, oui.
Alors... Voilà. Après, une fois qu'on a posé ça, on se dit, il faut vérifier que ça marche.
Ouais.
Alors, avant même que, au même moment où nous poursuivons les travaux, nous réalisons les travaux, on se dit, on va lancer quelques initiatives pour vérifier que la proposition que nous faisons est pertinente.
Mmh.
Et donc, on lance un programme de débat, de concerts, etc. On le fait d'ailleurs très vite, on essaie de construire un partenariat avec les associations du quartier, mais aussi avec... la librairie Le Grain des Mots, avec les Amis du Monde Diplomatique, etc. Et puis, on organise une dizaine de manifestations et le succès est là. Quoi. Le bouche à oreille fonctionne très, très bien.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'en fait, la ville a tellement besoin, la ville telle que je la décrivais, en train de muter, de changer, elle a besoin tellement d'un tel lieu qu'en fait, ça se passe au-delà de ce que tout le monde espérait. C'est-à-dire que d'un coup, le lieu est investi, il vit. Et la première conférence que nous avons faite était pourtant aride. S'intitulait, je lis mon papier, parce que de l'utilisation politique des neurosciences à l'école.
Autour de, voilà. Ça commençait très fort.
Ah, on commençait très fort, hein, parce que c'était l'actualité. On parlait de ça à la radio. Donc, autour de Denis Brouillet et d'Hervé Boukobzal, psychologue et autre psychiatre. Avec déjà une dimension musicale, la fanfare des comptoirs. Ensuite, on a accueilli les Kurdes. On a fait une opération de manifestation de solidarité avec les Kurdes. On a découvert le documentaire, la situation au Rojava. Et Rojava, c'est incroyable ce qui se passe à cette région. Administrée, auto-administrée en même temps par les Kurdes. Égalité sociale, démocratie, statut de la femme, en fait, etc. J'en passe. Mais on découvre là. Chaque fois, repas kurde, musique, etc. Il y a une soirée aussi purement musicale. Je vais vite parce que sans ça, je vais bouffer du temps. autour de l'association réunionnaise, donc une soirée rougaille saucisse, toujours musique là. Le 1er mai, à la suite de la manifestation rituelle du 1er mai, il y a un couscous géant dans le quartier avec 200 personnes. Ensuite, il y a une soirée avec le cercle Podemos. Je pense que je vais oublier plein de trucs, mais... Il y a un débat philosophique.
Vous avez fait une soirée sur les migrants qui a eu beaucoup de succès, je crois.
Alors, voilà. Il y a eu une soirée sur les migrants. Pour moi, c'est le... Il y a eu une soirée aussi, juste avant, une soirée quand même, parce que c'est ça, je vais l'oublier, une grande soirée sur l'écologie, les mobilisations citoyennes, sur le zéro déchet, etc. Mais vous avez raison de souligner celle-là, de soirée qui était particulière, et qui, moi, qui personnellement, m'a beaucoup marqué.
Ouais.
C'était une soirée organisée par une association qui s'appelle Bienvenue Migrants, qui est animée par Nicole Gineau. La soirée s'est déroulée avec le soutien de la CIMAD et la participation du Secours catholique, du Café solidaire. L'idée, c'était d'organiser une rencontre entre créateurs migrants et créateurs montpellierains.
Ah oui.
Donc, il y a une espèce de scène ouverte où se sont mêlés, Michel Mar, Denis Fournier, des créateurs, des auteurs et des musiciens africains, Lamine, Well, Mohamed, je ne sais même plus leur... des comédiens, Michel Bourelli, Luc Sabo, etc. Et il y a une fresque même qui était peinte pendant cette soirée par un des peintres africains et un peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc Deluze.
D'accord, oui.
Et pourquoi ça m'a marqué? C'est parce que le jour où nous organisions cette manifestation, c'était le jour même où le gouvernement interdisait que l'Aquarius puisse accoster sur
les côtes françaises.
Et pour nous, c'était terrible. Il y avait, enfin, je veux dire, pour moi, en tous les cas, je veux dire, c'était, pour être précis, on avait prévu de toute manière de montrer dans le patio des images de fêtes réalisées par le photographe de Aquarius.
Ouais.
Donc, quand on rentrait dans le lieu pour assister à découvrir tout ce que j'ai tenté de décrire, on traversait cette allée de photos, quoi, des photos bouleversantes. Et ce jour-là, on apprend que le gouvernement, le président de la République, disent non, on n'accueillera pas ce bateau des 630 migrants, et des femmes, des enfants, etc. Moi, j'ai dit, je pense que c'est pas une faute politique, c'est pas une faute morale. Pour moi, je considère que c'est un crime, quoi. C'est au-delà, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc, ce soir-là, pourquoi c'est important, c'est qu'on a passé un serment avec les gens que j'évoquais, qui étaient là, les créateurs, mais aussi ceux avec qui on a organisé la soirée, pour dire... On continuera tous ensemble le combat et ces mobilisations. Et à la rentrée, on va prendre d'autres initiatives et on le fera dans l'esprit de ce qui se passe à la vallée d'Arroya et dans l'esprit de ce que fait ce magnifique militant humaniste qui s'appelle Cécile. On prendra toutes nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on prendra toutes nos responsabilités.
D'accord.
Pour d'accord. accueillir et accompagner les personnes migrantes.
Ok. On va s'arrêter là pour la genèse, en fait, ce que vous avez fait depuis le début.
Oui, je vois pas ce que
on va faire une petite pause et puis après, on parlera un peu du fonctionnement de la Carmagnole. Vous avez choisi un morceau de musique, je vous laisse le présenter. Vous avez choisi ?
J'ai choisi un morceau de Jacques Chelin parce que j'aime ce. Parce que c'est un poète.
Un amour partagé.
C'est un poète un peu fou.
Tout à fait.
Et que sans poésie et sans folie, on ne changera pas ce monde. Quoi. C'est un peu ça le.
Tout à fait.
Mais ça,
et donc le morceau s'appelle Parc Monceau.
Le parc Montsouris, c'est le domaine où je promène mes anomalies. Je me décrase les antennes des mesquineries de la vie. Y a même un kiosque à musique où des militaires jouent à moitié. Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil se lève et moi aussi, c'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant. J'en crève. Le facteur, le coursier, et les balles de nuit, les éboueurs m'interpellent. Hé hey Jacques, qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-ci? Je vis pas ma vie, je la rêve. C'est comme une maladie que j'aurais chopé tout petit. Quand le parc mon sourire amène sa fraise, les matins où le soleil vous mord la peau, le dos collé à la chaise, les pieds au bord de la pièce d'eau. Ça me rappelle cette valse autrichienne que papa jouait en rentrant du boulot. Mon cœur est déchiré, séparé du tien, je me sens comme un routier entre loups. devant le comptoir du tabac, mon sourire. Les clodos, le livreur, la marchande de journaux m'offrent un pot, m'interpelle. Et Jacques, et tu viens de te lever là ou tu rentres te coucher? Oh, je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil fait la grève et moi aussi. C'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant qu'elle m'achève.
Après cette pause musicale, ce moment de poésie pure, interprété par Jacques Higelin, donc nous sommes avec Henri Ménadier, qui représente le collectif qui gère le lieu La Carmagnole à Figueroles, ce lieu magnifique. Et donc Henri, j'aimerais vous demander, au stade où nous en sommes de cette émission, quel est le fonctionnement un petit peu de La Carmagnole? Est-ce que c'est une assoce? Est-ce qu'il faut adhérer? Est-ce que c'est un lieu ouvert comme un bar? Comment ça fonctionne sur le plan administratif, comment ça se gère en deux mots, pour que les gens qui sont intéressés puissent savoir.
Pour comprendre un peu, pour être dans la suite un peu de la genèse de la question que vous me posiez précédemment, en fait, en même temps qu'on faisait les actes, on produisait les actes administratifs, ouais, pour louer, etc., on mm-hmm. avait mis en place une série d'ateliers. Donc il y a un atelier culture, un atelier conférence débat, un atelier sur le fonctionnement du bar associatif, notamment ouais. sur les travaux, sur les finances, etc. Mm-hmm. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont travaillé comme ça pendant tout ce temps. Tout est parti du travail de ces 50 personnes pour définir le mode de fonctionnement. Alors aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle les Amis de la Carmagnole.
Ouais.
C'est les gens qui fréquentent le lieu. De devenir adhérent,
ouais.
et cette association, qu'on doit compter 700-800 membres.
D'accord, pour avoir accès au lieu, on adhère.
Oui.
D'accord, c'est une adhésion qui est très,
ouais.
très bon marché, je crois.
Oui, c'est...
5 euros, non?
Oui, c'est ce qu'on veut, en gros.
C'est ça, voilà. C'est une adhésion libre, on va dire. Ouais.
Bon, et ça, on va arriver très vite à 1000-1500, enfin, on va arriver sûrement mm-hmm. à un nombre important d'adhérents.
Mm-hmm.
Lesquels ensuite reçoivent, un réseau se constitue, reçoit les informations, répercute et tout.
Ouais.
Et, tout. Et puis, mais le socle du fonctionnement de la Carmagnole, c'est le collectif, ce qu'on appelle le collectif des coopérateurs. Ce sont les coopérateurs. C'est quoi un coopérateur? Tout le monde peut devenir coopérateur.
Oui, bien sûr.
Chacun, chacune peut devenir coopératrice ou coopérateur. C'est une adhésion individuelle. J'insiste parce que c'est pas une adhésion. Il n'y a pas d'adhésion d'assaut.
D'accord.
Autant il y a ces accords, ces partenariats avec beaucoup d'assauts. Mais l'adhésion à Carmagnole, elle est individuelle.
Mm-hmm.
Elle repose sur une cotisation mensuelle.
Ouais.
Qui va de 5 euros à 10,
non, on parle
15,
du statut
20,
de coopérateur. Hein.
On parle du statut de coopérateur, l'adhésion au coopérateur, tout à fait. Et elle se fait, alors, ce qui permet à la Carmagnole de vivre, aujourd'hui, il doit y avoir 300 à peu près, non, il doit y avoir, pardon, il doit y avoir 120, 130 coopérateurs. Cela suffit, leur participation mensuelle suffit, permet au lieu de payer, de vivre, le loyer est déjà payé.
Voilà, loyer, eau, électricité.
Voilà, tout ça, toutes les charges et tout.
Mm-hmm.
Et l'objectif, c'est d'être 200, 300 et au-delà. Quoi.
D'accord.
Et puis, l'adhésion se fait aussi sur l'acceptation d'un texte que j'évoquais tout à l'heure, d'un texte un peu fondateur, qui est celui de la charte, quoi, qui définit le cadre.
D'accord.
Dans lequel,
oui, l'objectif, en fait, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir financer, j'imagine, des projets culturels ou comme les projets dont vous parliez sur les migrants ou des choses comme ça, j'imagine que c'est ça votre but.
Tout à fait.
D'accord. Okay.
Et ces coopérateurs se réunissent, l'Assemblée des coopérateurs se réunit au moins une fois tous les deux mois. Et c'est vraiment la direction effective, l'organe décisionnel de, de l'association.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
En gros, voilà comment ça
fonctionne. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien que les gens qui nous écoutent puissent savoir que on peut aller là-bas de façon tout à fait libre. Il suffit d'adhérer, d'adhérer au prix qu'on veut.
Voilà. N'importe qui peut devenir coopérateur, adhérent.
Voilà.
D'ailleurs, c'est même l'esprit du lieu, c'est ça. C'est toutes les formes de créativité individuelle, d'envie individuelle sont les bienvenues.
Voilà. Et donc, dans ce lieu, vous avez plusieurs salles, vous avez un bar, vous avez, j'imagine, une bibliothèque, vous avez des expositions en permanence sur les murs du lieu.
Il y a un patio sur lequel on peut entrer, qui est un lieu d'accueil idéal pour des expositions.
Oui.
Photographie, plastique, etc. Il y a une grande salle dans laquelle va fonctionner et vivre un bar associatif.
Ouais.
Il y a à côté des salles de réunion et il y a une petite salle de spectacle que nous sommes en train d'aménager.
D'accord.
Qui sera le lieu, évidemment, naturellement, où nous accueillerons à la fois les concerts, le théâtre D'accord. et où se déroulent déjà des séances de cinéma.
D'accord, super. Ok. Et donc, pour maintenant qu'on sait comment fonctionne le lieu, je serais tenté de dire, ben justement, quelles sont vos attentes, quel est le but poursuivi, qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire avec ce lieu. Est-ce que le but, c'est uniquement d'avoir un lieu associatif où il va y avoir des événements, ou est-ce qu'il y a un projet au-delà de ça? Est-ce que vous aimeriez pouvoir initier autre chose à partir de là?
Tout est ouvert. Les attentes, j'allais dire, concrètes, immédiates, c'est ce qu'on dit, on tous fait en marchant, à marche forcée quelquefois. J'ai envie de dire, sous forme un peu de boutade, de plaisanterie, le premier, j'espère qu'on va avoir très vite un site en place et facile d'accès. Voilà, donc,
oui.
De manière un peu plus sérieuse, l'objectif là, l'attente là pour les jours, les semaines qui viennent, c'est de pouvoir réaliser tous les travaux donc, qui sont lancés. Au plan de la sécurité, au plan de l'isolement, pour qu'il n'y ait pas de nuisance auprès des voisins, l'isolement phonique, thermique du lieu.
Mm-hmm.
Par exemple, quand j'évoque le café associatif, ça veut dire tout un aménagement particulier.
J'imagine, oui.
La salle dédiée qu'on vient d'évoquer au concert, ça demande aussi une petite régie.
Bien
tout
sûr,
ça.
Ouais.
Donc ça, pour réaliser ça, il nous faut gagner encore des coopérateurs.
Oui.
Il faut, là, s'il y a 120 coopérateurs, je le répète, il faut qu'on soit plus nombreux. Donc, c'est un appel aussi. Rejoignez-nous, devenez coopérateurs de ce lieu.
Nous avons besoin de coopérateurs.
Et puis, il faut qu'on boucle l'appel aux dons et aux prêts militants. Là. Pour faire les travaux que je viens d'évoquer, il nous faut 40 000 euros.
D'accord.
Et une carte, pardon, 80 000 euros, et nous en avons 40.
C'est ça.
Donc, il en manque. Mais bon, ça, tous les jours, la situation évolue. Et je pense qu'on réalisera les travaux dans les temps, c'est-à-dire pour le mois de septembre.
D'accord.
Durant l'été, la fin de l'été.
Et alors, puisque vous me parlez du mois de septembre, c'est une bonne transition pour vous demander, finalement, parce que, bon, j'imagine que sur l'été, il y a quelques projets. Je sais que vous avez prévu de diffuser des matchs de foot, etc. Mais ce qui m'intéresse, surtout ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser nos auditeurs aujourd'hui, c'est un petit peu de savoir quels sont les projets, peut-être pour la rentrée, si vous avez des projets pour septembre, octobre, est-ce qu'il y a des choses un peu phares, est-ce qu'il y a des choses que vous avez en idée qui ne sont pas encore mises sur papier?
Alors c'est marrant que vous évoquiez la Coupe du monde de football, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un chantier. Et en même temps, il y a l'écoute collective des matchs. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon.
Ouais.
Mais l'écoute des matchs, avec chaque fois une participation d'un écrivain, d'un sociologue, quelqu'un qui a pensé aussi à un rapport au football société.
D'accord, c'est bien.
Toujours
ça.
Ce souci de lier. Ouais,
oui, de ne pas s'limiter au football pur. C'est bien.
Un truc contenu, quoi.
C'est bien.
Après, je peux pas. À l'heure actuelle, les choses sont en cours d'élaboration.
D'accord.
Je pense qu'il y a un ou deux séminaires d'une journée prévus avec les coopérateurs pour préparer le contenu d'entrée. Ce qui est sûr, ce que je peux dire tout de même, c'est que dès que les travaux seront terminés, c'est-à-dire courant septembre, octobre, on va organiser une très grande fête dans le quartier, avec le quartier, mais aussi avec pour marquer l'ouverture du lieu.
Donc ça serait là, plutôt vers la rentrée.
Voilà. Là, c'est l'idée, c'est de rassembler tous nos amis, tout le réseau, tous nos amis musiciens, théâtreux, etc. Et de faire vraiment, l'objectif, c'est de rassembler plusieurs centaines, voire une paire de milliers de personnes pour marquer le lancement du lieu. Puisque jusqu'ici, nous sommes encore dans l'ébauche, nous sommes dans la vérification que j'évoquais.
Ouais, ouais.
Mais là, nous allons aller, pour rebondir sur la dernière partie, oui, nous allons aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Quoi.
D'accord.
C'est clair, quoi. C'est clair que la Carmagnole va devenir une espèce de lieu majeur d'une partie de la vie culturelle et sociale de la ville. Quoi.
Oui, parce qu'en fait, finalement, vous avez, la première fois où vous avez réuni des gens à la Carmagnole, c'était quelle date à peu près ?
Mois d'avril.
Oui, c'est ça. Donc, c'est allé très, très vite.
Très, très vite. Très vite.
Et plus vite que ce que vous pensiez au départ.
Beaucoup plus vite. Ouais. Justement, c'est une partie de nos problèmes.
Quoi. Et ça prouve qu'il y a un réel besoin de ce genre de lieu, j'imagine, sur la ville de Montpellier. Quoi. Ça prouve qu'il y avait une attente, si les gens ont réagi aussi bien.
Il y a un besoin, il y a une attente. Ouais. Hein, d'un lieu ouvert qui correspond un peu aux caractéristiques que j'évoquais, qui accueille un lieu généreux, je dirais, finalement.
Ouais, ouais, c'est ça.
Un lieu où on se fait plaisir, un lieu où on partage. C'est un lieu qui, de ce point de vue, est très différent de ce qui existe déjà. Il y a des lieux sympathiques. Mais là, il y a quelque chose en plus.
D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je rappelle que nous sommes en train, à plusieurs associations, d'organiser un grand festival des alternatives qui aura lieu du 19 au 22 septembre. Et j'espère qu'à l'occasion de ce festival, on aura l'occasion de faire quelque chose ensemble. Je pense que ça serait une très bonne idée. La dernière chose que j'aimerais vous demander pour nos auditeurs, c'est peut-être une adresse précise pour que les gens sachent où se trouve ce lieu, et puis peut-être une adresse internet pour que les gens puissent, ou un site, ou un courrier, je ne sais pas.
Alors, je voudrais terminer en disant quand même juste
un truc.
J'ai une minute ou
deux
là.
Oui, tout à fait.
D'accord. Parce que je reviens sur les projets. Bon, les projets, ouais. je redis, urgence, à la rentrée, nous organisons des manifestations de solidarité sur les migrants.
Ça, d'accord.
Avec ce qui se passe aujourd'hui, ici, en France, en Europe, etc., c'est un devoir. Voilà.
Ouais,
ça relève d'un devoir absolu. Quoi.
Mm-hmm.
Et puis, je veux ajouter aussi quelque chose d'essentiel qui est lié quand même à l'esprit de la maison. C'est-à-dire que vous parliez dans votre, j'ai noté là sur un coin de ma page, dans votre introduction que je trouvais très belle, la nécessaire prise de conscience, vous en appeliez un réveil citoyen, etc. Moi j'évoquais tout à l'heure, je viens d'évoquer à l'instant le sort des migrants, mais ce n'est qu'un bout d'une dimension de toute une politique, c'est-à-dire qui accentue les inégalités, qui donne de plus en plus aux riches, qui accable les pauvres, etc. On est dans une période où il y a beaucoup de souffrance sociale. Et donc, franchement, en plus de tout ce que je viens de dire, qui décrit, je crois, de manière ambitieuse les projets de vie culturelle, de créativité, etc., en plus, nous sommes quand même ça. La première phrase du manifeste, c'est quand même, nous sommes un lieu de...
Un lieu de rassemblement.
Un lieu de rassemblement et un lieu de mobilisation, un lieu revendiqué de mobilisation, de soutien aux mobilisations sociales.
Oui,
voilà.
Oui. Et c'est quand même un lieu engagé.
C'est un lieu de résistance. Voilà.
Oui,
c'est un lieu, je vais dire comme ça, parce que l'engagement, ça recouvre.
Oui,
les
oui, de résistance, tout à fait. C'est le mot que j'ai employé.
C'est un lieu de résistance. Et si nous oublions cette dimension, si nous n'étions pas, pour reprendre votre expression, des éveilleurs de conscience, je dis très simplement, toute cette histoire ne servirait à rien. La Carmagnole, il y a cette phrase, je ne sais plus dans son texte, la Carmagnole participe au combat émancipateur pour une société humaniste et un monde nouveau. C'est ça le
nœud du problème.
Le nœud, le corps, la densité du projet, elle réside dans cette forme d'engagement qui est un engagement de résistance, évidemment. Quoi.
Je comprends.
Et qui est un peu au centre de tout. Alors, les contacts...
Oui, dites-nous. L'adresse, déjà.
L'adresse, c'est 10 rue Haguenau. C'est presque rue Huguenot. Hein, dans cette radio, c'est un clin d'œil. Ça s'écrit presque pareil, Haguenau, OT, 10 rue Haguenau.
C'est une petite rue en bas de
petite rue,
du Faubourg Figuerolles.
Ouais, en face, à côté de la place Salengros.
Voilà.
L'adresse auquel tous les messages peuvent être envoyés, c'est la Carmagnole.montpellier@gmail.com, la Carmagnole. montpellier@gmail.com.
Tout en minuscule.
Et puis ici, puisque je suis dans une, accueilli par une radio protestante, que j'appartiens moi-même à une vieille famille protestante, je donne mon numéro de téléphone personnel, ce qui signifie que chacun ou chacune qui aura envie de prendre contact pour la carriole pourra m'appeler au 06 50 36 50 32. 06 50 36 50 32.
Super.
Merci.
Merci à vous, Henri.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.